comme on tire en cadre de légitime défense, si on tire, c'est que c'est une riposte proportionnelle. Donc, si la personne, si le tireur a le ressenti que la personne, que le preneur d'otages va tuer un de ses otages, on va tirer pour neutraliser, pas pour blesser.
Bienvenue dans cette mini-série exclusive du podcast Défense Zone consacrée au RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Dans ce nouvel épisode, nous découvrons une nouvelle spécialité, celle de tireur haute précision. Nous souhaitons bonne écoute.
Donc nous sommes toujours à Bièvre, au siège du RAID, avec un THP, un tireur haute précision, Brigadier Olivier. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Donc oui, bonjour. Donc je m'appelle Olivier, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis rentré dans la police en 2000. Sorti d'école en 2000, j'ai été affecté au commissariat de police d'Antony, dans un secteur difficile, ce qu'on appelait l'île otage à l'époque. Ensuite, en bac, 3 ans plus tard, et en 2005, j'ai passé les tests du RAID pour intégrer le groupe de recherche et d'information, à l'époque le GRI, qui travaillait en appui, observation, apport de renseignements sur tout ce qui était antiterrorisme. En général, on a beaucoup travaillé en Corse et sur l'islam, essentiellement. Ensuite, en 2009, j'ai intégré le groupe d'intervention, avec pour spécialité varapeur puis tireur, suite à des tests de sélection interne. Et en 2014, notre ancien patron, M. Fauvergue, a décidé de créer un groupe qu'il ne ferait que du fusil, la spécialité étant tellement complexe et demandant beaucoup de travail. Il a décidé de détacher les tireurs dans un groupe spécialisé et de créer un groupe, 14 effectifs théoriques, on est 12 actuellement.
D'accord. Et ce groupe, il est, c'est que des gens qui sont ici à Bièvre ou il y en a aussi dans les antennes du RAID ?
Alors non, ce groupe déjà fait pas partie de la section d'intervention, on fait partie de la section d'appui opérationnel. Et on est essentiellement basé à l'échelon central à Bièvre. On a bien sûr des tireurs dans les antennes. Chaque antenne a un nombre de tireurs et on vient en soutien de ces tireurs qui sont plus des tireurs d'intervention.
D'accord. Et eux sont intégrés aux antennes, à chaque groupe d'intervention, en fait
Voilà, chaque antenne a des tireurs qui sont autant opérateurs que tireurs. En fonction des besoins, ils ont la double casquette.
D'accord, ok. Et ils viennent ici pour se former ou est-ce qu'il y a des formations au sein des antennes ?
Donc, déjà, eux maintiennent une formation continue toute l'année. Et puis, le groupe tireur du RAID, nous allons organiser 1 à 2 rencontres par an avec pas forcément tous les tireurs des antennes, mais sur des sites militaires, des pas de tir longue distance pour faire des formations et des entraînements communs.
D'accord. C'est quoi les missions du THP ?
Alors nous, on va beaucoup travailler sur la sécurisation du président de la République, du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre. Tous les déplacements, on va faire la sécurisation des points hauts. Contre sniping. On va donc préparer, il y a beaucoup de missions préparatoires, donc on va en amont avec les précurseurs du GSPR, du groupe de protection du président de la République, groupe de sécurité du président de la République. On va donc travailler en collaboration avec eux de manière à prévoir tous les déplacements et sécuriser les déplacements de ces autorités. Ensuite, on va aussi couvrir tout ce qui est gros sommet, donc les G7, le MED7 à Ajaccio, le débarquement à Caen, où là, il y a des chefs d'État étrangers qui vont venir et on va s'occuper de toute la sécurisation de ces déplacements, de ces sommets. Prochainement, un gros travail sur les Jeux de 2024. Ça, c'est pour la partie tout ce qui est point haut, tout ce qui est organisation et sécurisation. Ensuite, on va travailler donc sur les appuis des colonnes d'assaut. Quand les colonnes d'assaut interviennent en milieu clos, on va se mettre en place en amont, renseigner, prendre la température, apporter le plus possible de renseignements afin que la colonne d'assaut se mette en place. Et on est les yeux en fait de la colonne. Tout ce qui est grands ensembles, salles de spectacle, cinéma, centres commerciaux, là on va travailler en parallèle de la colonne d'assaut sur un appui en fait pour appuyer leur progression. On a des missions, donc bien sûr on fait des assistances sur toutes les IAD, les interpellations à domicile. On est aussi précurseur sur les extractions. Donc les extractions de détenus dangereux. On a eu un émir de Daesh dernièrement, on a eu un terroriste aussi connu, Carlos pour ne pas le citer. Donc on a dû, on fait précurseur pour le convoi. Et ensuite aussi on fait des missions d'appui-feu de tireurs embarqués en hélico. Donc ça c'est on fait beaucoup d'entraînement, sur des camps militaires aussi, avec divers armements. Donc cette mission, c'est vraiment un appui-feu. On a été engagé notamment sur la traque des frères Kouachi. On a d'autres missions, mais c'est celle qui me vient à l'esprit et qui avait pas mal marqué. Voilà pour les missions, on va dire, opérationnelles. Ensuite, on a une casquette aussi de formation, tout ce qui est formation de certains groupes à l'étranger. Donc on va beaucoup dans le Sahel. Ça va être Niger, Mali, Mauritanie, il y a eu l'Irak, il y a eu, bon je peux pas vous toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, il y a des missions en Amérique du Sud aussi, où là on va former des tireurs, conseiller sur le matériel. Ensuite on fait beaucoup d'échanges avec des régiments, de l'armée française, différents régiments de l'armée française pour la formation. On profite des sites et on échange notre savoir-faire. Et c'est à peu près tout. On fait de la R&D aussi, voilà. Tout ce qui est recherche et développement, matériel, pour faire évoluer, toujours être à la pointe dans le métier, c'est essentiel, que ce soit en com radio, on travaille beaucoup avec des fournisseurs qui nous donnent du matériel en essai, et puis aussi au niveau de tout ce qui est optronique. Donc là, c'est un gros appui, un gros soutien pour nous d'avoir des optroniques performants.
On a reçu dans un précédent épisode du podcast le CEO de PGM, Précision, qui nous parlait justement de son aventure avec le RAID, parce que le RAID a été un peu le premier gros client qu'il a eu et qui a permis de lancer les CAT. C'est quoi votre retour sur ce type d'armement?
Alors c'est une carabine, c'est une très très bonne carabine. Nous on l'a depuis, je crois que la première PGM Ultima Ratio en calibre 308 date des années 90, 91 il me semble. Et aujourd'hui, on a donc changé la canonnerie, parce que évidemment, on tire quand même pas mal, mais on n'a pas de panne sur ce genre de carabine. Quand je suis arrivé au RAID, on me parlait de. On nous donne une PGM, on ne se rend pas compte qu'on nous donne une Rolls Royce. Quand on essaye d'autres carabines, on s'aperçoit que le confort. L'ergonomie, il y a des choses à travailler bien sûr parce que tout est perfectible, mais c'est vraiment une belle carabine.
Après, en termes d'équipement, c'est quoi ce qui compose le sac d'un THP en quelque sorte, c'est le lourd sac on va dire?
Mais du matériel d'observation, de jour, de nuit, faut pas oublier sa Gore-Tex parce que le climat peut vite changer. C'est en fonction de chaque tireur, quand même, parce que porter un sac, porter l'armement, personne ne le porte pour nous. En fonction des missions, il faut quand même faut être mobile, il faut être rapide, se mettre en place rapidement, parce qu'il y a toute une stratégie d'ensemble qui va ils nous attendent, en fait, hein, comme on donne du renseignement. Donc il ne faut quand même pas être trop, trop lourd, mais c'est vrai que... Il y a quand même du matériel indispensable, comme des télémètres, jumelles, NSV pour les pour le matériel de vision de nuit, des thermiques. Et je vais pas vous faire l'inventaire de mon sac parce que je l'ai pas complètement en tête, mais on a tous nos petits trucs, une sangle pour peut-être. En fait, c'est du matériel de mise en place en fonction des situations, parce qu'on n'est jamais dans une position de confort total. Donc on va réfléchir chacun à ses petits trucs pour se mettre en place et être confortable, parce que faut pas oublier que quand on se met en place, un tireur, ça peut durer longtemps. Donc être dans l'inconfort, on doit être immobile, patient, et on va vite. Si on est dans l'inconfort, on peut plus remplir notre mission correctement. Donc c'est aussi important.
Est-ce que vous fonctionnez comme les tireurs d'élite dans l'armée, notamment l'armée de terre, où il y a un tireur, un fixeur?
Tireur, spotter, observateur. Si on était plus riche en effectifs, on essaierait de binommer, de faire un tireur spotter à chaque fois, même à courte distance. C'est peut-être pas forcément un rôle de spotter à courte distance, mais plus d'observateur et d'appui quoi, pour le tireur. On le fait dès qu'on arrive sur des zones d'observation plus éloignées et où il y a vraiment des calculs de tir à faire. Et ça, on le fait. C'est une nécessité. Ensuite, sur les opérations, souvent en milieu urbain, avec des distances restreintes, on va... Si on en a, qu'on est riche, on en mettra en place. Sinon, ce n'est pas forcément tout le temps nécessaire.
Cette spécialité, c'est une spécialité qui est un petit peu sexy, qu'on voit beaucoup dans le cinéma, la littérature, les séries. Comment vous le percevez-vous en étant là, de l'intérieur, quand vous voyez un peu tout ce qui se passe autour de ce métier?
Nous, honnêtement, on ne se rend pas compte de tout ça. Je sais ce que vous me dites, c'est vrai qu'on voit souvent les enfants qui nous regardent avec des yeux quand on fait comme les 35 ans dernièrement, c'est vrai, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on est dans le métier, on travaille, on essaie de faire évoluer les choses, et peut-être plus tard, quand on aura quitté le raid, on s'en rendra compte, mais pour le moment, on ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est pareil pour toute personne du raid. Une des qualités, c'est quand même l'humilité, et ça se reconnaît chez chacun des opérateurs ici.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert à détecter aussi peut-être les mauvais candidats quand ils veulent rejoindre le RAID, du coup?
Oui, complètement. Ouais. Dans les tests de sélection, les sélections, surtout aujourd'hui, c'est une sélection très très difficile, mais il y a des moyens de préparation physique. Aujourd'hui, tout est accessible. Quelqu'un qui veut peut se préparer pour le raid, mettra plus ou moins de temps, mais peut être prêt physiquement. Ensuite, c'est quand même un profil particulier qu'on cherche, notamment quand c'est des petits groupes comme le nôtre, de 12-14 personnes. On est tout le temps ensemble, il faut que tout le monde s'entende bien et que chacun soit complémentaire. Donc le profil est très important. Et l'humilité vous comprenez qu'en groupe, c'est important, c'est important.
Il y a des sélections particulières en plus du recrutement principal du RAID?
Alors les sélections pour le groupe des tireurs, c'est les mêmes sélections que le groupe d'assaut, mais avec des épreuves qui vont être spécifiques au groupe d'assaut que nous ne passerons pas. Mais par contre des épreuves spécifiques à notre spécialité. En fait, quand les gens postulent, tout le monde va être convoqué sur les mêmes sélections, mais avant d'arriver, les gens savent déjà qu'ils postulent pour le groupe des tireurs. Parce que c'est vraiment un profil différent, particulier, et on veut quelqu'un qui s'implique à 100% dans la matière. On ne veut pas quelqu'un qui vienne chez nous en se disant « Ah tiens, je vais basculer en groupe d'assaut ». C'est vraiment pas l'intérêt, il faut vraiment que la personne sache qu'il va avoir du travail, que c'est pas forcément, vous disiez que c'était une spécialité peut-être sexy, je reprends vos termes, c'est plutôt au sein de l'unité, on est plus dans l'ombre, on est moins quand même en avant, et il faut vraiment le comprendre avant de venir dans notre groupe. On va faire du travail qui se verra pas forcément.
D'accord, un truc un peu plus ingrat qu'on imagine.
c'est pas ingrat, mais c'est pas ingrat, mais c'est vrai que c'est un travail, beaucoup de travail qui se voit pas forcément.
L'utilisation du tireur, elle vient en dernier recours. Il y a eu avant la phase de négociation, du coup on renvoie aux auditeurs aussi à cet épisode qu'on a fait avec le négociateur du raid. Est-ce que ça arrive quand même, ça vous est arrivé plus ou moins régulièrement de devoir tirer en mission, en opération ?
Alors si c'est arrivé, c'est souvent une question qu'on nous pose, hein. Mais on est d'abord là pour préserver la vie. C'est pour ça que dans la stratégie employée, les tireurs se mettent en place, renseignent la situation. Ensuite, le négociateur va intervenir pour essayer de trouver une issue autre que de tirer pour neutraliser l'individu. Très souvent, il ne faut pas croire qu'on a affaire à des terroristes comme ça a pu être médiatisé énormément en 2015. La plupart du temps, c'est quand même des drames sociaux, c'est quand même des gens qui sont en détresse. Donc, on est vraiment là pour les ramener à la raison et pas pour les éliminer, si je puis dire.
Ah, parce qu'au moment où vous avez ordre de tirer, c'est forcément pour neutraliser.
Neutraliser. Alors, ou... C'est simple, le cadre légal, c'est comme pour tout policier, c'est légitime défense. Enfin, on ne tire qu'en légitime défense. Sauf dans des cas bien particuliers, pour un besoin stratégique. Parfois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, parce que nous, on voit ce qui se passe sur notre secteur d'observation, mais le commandant opérationnel et le patron du RAID, qui, eux, ont un œil d'ensemble, une globalité de l'intervention, peuvent demander un tir, si le tireur est en capacité, bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Peuvent demander un tir pour les besoins du bon déroulement de l'intervention. Prise d'otages multiples, on n'a pas, avec pluralité d'auteurs, ça pourrait arriver. D'accord. Autrement, on est vraiment dans le cadre de la légitime défense permanente. Quand on se met en place, c'est le tireur qui fait le choix d'engager ou non si une personne est en danger.
Et est-ce qu'il y a un degré de précision dans l'ordre ? Est-ce que c'est un tir pour tuer, un tir pour blesser ou...
Comme on tire en cadre de légitime défense, ce sera... si on tire, c'est que c'est une riposte proportionnelle. Donc si la personne, si le tireur a le ressenti que la personne, que le preneur d'otages va tuer un de ses otages, on va tirer pour neutraliser, pas pour blesser. Quoi.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une ordre d'idée des distances jusqu'auxquelles vous pouvez viser juste dans le cadre d'une opération ?
On va dire que ça va rester des limites de précision de la munition, beaucoup. On tire l'ultima ratio qu'on utilise, c'est du calibre 308, c'est le calibre qui a été choisi par le RAID pour nos distances d'intervention. On travaille en milieu urbain, on va dire que la plupart de nos interventions sont à moins de 100 mètres. Je n'ai pas souvenir en ville d'avoir eu à me positionner à des distances plus grandes. Ensuite, on est capable d'engager. On va rester dans le raisonnable, on peut tirer beaucoup plus loin, mais pour garder un ordre de précision qui est demandé au tireur du raid, on va dire qu'avec du 308 jusqu'à 600 mètres, on va être dans le raisonnable au niveau de la précision, du groupement, et ensuite après on va passer sur des calibres du 300 Winchester Magnum avec d'autres armes ou de la 12-7, où là on peut tirer beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a eu des tirs faits à des distances à 1200, 1300 mètres avec du 300 Winchester Mag. C'est une distance tout à fait raisonnable pour ce calibre-là. Voilà. Donc on va dire que pour 1000 mètres, pour une cible humaine, à 1000 mètres avec du 300 Winchester Mag, c'est quasi du 100%.
D'accord. Il y a des opérations où il y a eu besoin de tirer si loin ou dans des distances assez longues. Il y a eu des trucs qui ont été médiatisés ou pas?
Médiatisés, non, mais je peux pas vous, je suis pas habilité à vous parler de tout ça.
D'accord, ça marche. Quand vous partez, vous êtes déclenché en opération, il y a forcément toujours un tireur d'élite, enfin un tireur de haute précision qui part avec le groupe, même si c'est pour quelque chose, un incident domestique ou...
Alors, oui, là, ce qui va quand même, la décision qui va être prise d'amener ou pas un tireur, ça va être si on sait que c'est un forcené ou une interpellation à domicile au dixième étage d'une tour complètement isolée, le tireur en extérieur, il pourra jamais engager. Il y a tellement de dévers, ce sera pas, on verra rien en fait à l'intérieur. Donc parfois pour des interpellations à domicile, on n'emploie pas de tireur. Je parlais des forcenés, ça souvent l'information on l'a qu'une fois arrivé sur place. Forcené ou prise d'otage, mais bon, généralement, quand on a l'information en amont que le tireur, on ne peut pas employer de tireur, il n'y a pas de tireur en extérieur. C'est rare, mais ça arrive.
D'accord. Donc à la limite, il peut partir, mais pas forcément servir sur place.
S'il est là, on va lui trouver quand même un emploi.
Ouais. Ouais. D'accord. Et alors, c'est à lui de trouver son point haut, d'analyser vraiment la mission.
Ça, c'est une des qualités qu'il faut avoir. Il faut trouver le meilleur angle d'observation et de tir pour renseigner au mieux le commandant opérationnel et la colonne. Donc il faut trouver le bon poste, et le travail de mise en place dans la formation est très important. On doit se mettre à trouver le meilleur poste le plus rapidement possible.
Ça doit être un peu cocasse des fois, non, d'arriver devant un endroit, devoir taper à la porte, dire je peux venir sur le balcon.
Quand c'est taper à la porte, ça va. Il y a des fois où il faut escalader, on se retrouve dans des postures. En fait, il faut vraiment se mettre à visualiser la zone à observer et puis réfléchir en regardant l'environnement urbain, le meilleur poste, toujours confortable pour durer et pour enseigner le mieux possible. En fonction de l'armement qu'on a, parce que c'est vrai qu'on utilise des fusils de précision, mais on est appui au lanceur de grenades extérieur. Donc ce qui demande une étude de télémétrie particulière, étant donné la capacité de précision de la munition.
C'est quoi les qualités recherchées et c'est quel type de profil que vous allez rechercher pour votre groupe ?
Pour notre groupe, déjà, c'est des mecs sympas, déjà, premier truc.
Qui ont de l'humour, c'est ça?
Peut-être, oui, ça serait, ouais. Non, ce qui est important, c'est, on en parlait tout à l'heure, donc l'humilité. Faut quelqu'un de posé, de patient, parce que ça peut être très long et...
C'est quoi votre... La mission où vous êtes resté le plus longtemps en posté sur un toit ou ailleurs, ça peut durer plusieurs heures, j'imagine, mais
il y a eu des missions auxquelles où j'ai pas participé, mais je me semble sur une mutinerie dans une prison où ça a duré plusieurs dizaines d'heures, quoi, même. Après moi, ça me vient pas l'idée. J'ai dû en, on en fait tellement que. Ça ne vient pas l'idée là tout de suite.
Et dans un cadre d'une prise, enfin d'un événement, quand je pense par exemple à Toulouse avec Mera, où ça dure, je crois, 36 heures, il me semble, dans ces eaux-là, le THP ou les THP qui sont déployés sont relevés quand même, ou c'est tout le temps la même personne qui va rester de A à Z?
Non, il y a des relèves. Il y a des relèves effectuées. C'est souvent délicat, d'où le choix du poste. Il y en a, en fonction du poste qui a été choisi, ils seront plus souvent ou plus facilement relevés que d'autres, mais on essaye, il faut durer, on ne sait pas combien de temps va durer la crise, donc il faut évidemment prévoir des relèves. Sur des missions aussi longues que sur Mera, il faut penser à bien s'alimenter, à s'hydrater, et puis à être relevé pour faire des postes, quoi, parce que c'est... Il faut rester concentré à 100% tout le temps, donc il faut penser à gérer ça.
Vous avez des anciens militaires qui sont dans cette spécialité?
Oui, tout à fait. On a un ancien militaire
qui était TE ou
qui TP. Qui ont été notamment un, oui, qui avait été TE, oui, et qui après est rentré dans la police, a fait un parcours classique et nous a rejoint. C'est pas forcément quelque chose qu'on va rechercher dans le profil. Un intérêt pour la matière, oui, on va partir de zéro. Mais on va déterminer vraiment le profil et la capacité de la personne à apprendre le métier. Si c'est déjà quelqu'un qui a déjà un intérêt et qui s'intéresse à la matière, on peut le former, le modeler à notre travail, qui est quand même assez spécifique au RAID. Quelqu'un qui était eux, mais là, on va peut-être plus creuser sur un ancien militaire parce que les missions ne sont pas les mêmes. Les missions sont pas les mêmes.
Et est-ce que c'est demandé d'être pourquoi pas tireur sportif ou de pratiquer le tir en dehors du métier ou pas. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose d'ailleurs à la spécialité?
On a de tout, on a tout groupe. Hein. On a des personnes qui s'impliquent ou pour qui c'est une passion même dans la vie privée. On a des tireurs qui font très bien leur boulot et qui connaissent leur matériel par cœur, leur gamme, l'emploi des, leurs munitions, tout ça, et puis qu'à côté ne font pas de tir. Déjà, on en fait pas mal ici. Faut vraiment que ce soit une passion après pour en faire extérieur. On a un tireur au groupe qui fait de l'IPSC, qui a rien à voir avec la discipline, vous voyez, mais. Tout le monde a ses petites passions et son intérêt pour la matière différent. Mais ce n'est pas essentiel de venir du milieu du tir sportif.
D'accord. Pour terminer, si vous devez en trouver un, quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de vous rejoindre, qui prépare les tests de sélection et qui aimerait faire carrière ici en tant que THP?
En tant que THP, bon, de bien se préparer déjà. Parce que les sélections sont quand même difficiles. Mais vraiment, déjà, quand on passe les sélections, quand on arrive à finir la semaine, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour soi parce qu'on nous a amenés dans le retranchement. On nous a amenés à être dans des zones dans lesquelles on ne serait jamais allé seul. Donc déjà, quelqu'un qui échoue les tests, déjà, félicitations. Ensuite, pour être tireur, je pense que surtout, faut pas tricher. Faut être soi-même, mais que ce soit pour les tireurs ou pour les autres, faut être soi-même sur les sélections, parce que on a des psychologues, on est observé, et on verra si la personne joue un jeu tôt ou tard, quoi. Et pour les tireurs, de la détermination. Mais je rejoins encore une fois pour les autres, c'est pareil, quoi. Être vraiment déterminé je vois pas.
C'est un bon conseil. Merci pour cet échange et pour toutes ces informations.
Mais merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à tout de suite dans la suite de cette mini-série consacrée au RAID.